Vous écoutez RTL.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la journaliste Annie Lemoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir. Le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Claude Dacier de Valeur Actuelle. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Vous vous souvenez de la phrase de Jacques Chirac en 2002 ?
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
La Terre et l'humanité sont en péril.
Eh bien, 15 ans plus tard, à en croire Emmanuel Macron, notre maison a déjà brûlé, en fait, hein, pour le président français qui s'exprimait à la conférence climat de Bonn tout à l'heure. Le seuil de l'irréversible a été franchi. Des mots chocs pour appeler au respect de l'accord de Paris. Il propose un prix plancher sur le CO2 et que l'Europe se substitue au financement américain du GIEC. Alors, réchauffement climatique, est-ce qu'il est déjà trop tard? Le discours catastrophiste d'Emmanuel Macron, en fait, il joue à se faire peur. Qu'en dit-on sur les réseaux sociaux, Benoît Galeret?
Ben non, il résonne plutôt ce discours sur les réseaux sociaux, à part les inconscients, tout le monde s'en est aperçu, soupire Alain. Mais depuis 25 ans, qu'avez-vous fait, vous, nos dirigeants? Oui, vous pensez franchement qu'on va croire que ça vous préoccupe, monsieur le président, demande Janine. C'est émouvoir du dérèglement climatique et promouvoir la croissance à tout prix. Cet homme est au bord de la schizophrénie, ricane Patrick. Il est donc trop tard pour sauver les terriens. Et en même temps, on continue avec les centrales à charbon, moque Émile. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron soutient le CETA. Avec cet accord, les énergies fossiles polluantes seront davantage sollicitées, comme le pétrole en Alberta, grince Lucie. On a assez parlé. Il faut agir, pas seulement réagir. Il faut aider financièrement les pays pauvres à mettre en œuvre cette transition, prévient Ahmed. C'est vrai qu'en la matière, nous n'avons pas le luxe du temps. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui nous condamne à moyenne échéance. Nous prendrons le résultat de notre attentisme comme un boomerang en pleine tête, s'inquiète Nadia. C'était pas un gouvernement auquel appartenait Macron qui s'auto-congratulait après les accords de cette très inutile COP21, demande encore Didier. Pierrot pense que s'impose une décroissance imposée et contrôlée où ce sera le déclin forcé, brutal et potentiellement dévastateur. Ce sont les deux options qui s'offrent à nous, pas d'autres. Et Angelo Draghi pour finir, vivement la COP24 000 pour que tout bouge enfin.
Jean-Claude Dacier, vous tremblez après le discours d'Emmanuel Macron?
Non,
la maison a brûlé.
Je regarde l'artiste qui a su assez brillamment, politiquement parlant, s'entend, devenir le commander in chief, le commandant en chef de la lutte contre le réchauffement climatique. Il a évidemment profité du retrait malencontreux, malheureux. De l'Amérique et de Donald Trump, même s'il faut regarder tout ça avec un peu de nuance. Je pense qu'il a habilement profité aussi de la position compliquée et délicate de Mme Merkel, qui seule, sans en parler à ses amis européens il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, a décidé d'abandonner le nucléaire et a donc rouvert les centrales à charbon. Résultat, l'Allemagne est un pays pollué, avec des factures d'énergie en hausse de 25 ou de 30% pour les citoyens allemands. Bon, Macron dit « je prends ».
Enfin, il dit surtout « il est déjà trop tard ».
Oui, ça, je pense qu'il est comme tout le monde. On est sûr de rien dans un dossier extraordinairement complexe. Ce qui est sûr, c'est que le réchauffement climatique existe. Qu'on en soit responsable ou pas, le principe de précaution commande, sans doute, qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on essaie de faire ce qu'il faut pour éviter que le thermomètre continue de monter tous les ans. Bon, Macron s'est saisi du dossier. Il a du cœur à l'ouvrage parce qu'il n'a pas que celui-là. Il y a un combat dangereux, combat où il y a des coûts à prendre, il faut trouver 100 milliards, il faut convaincre les Européens de payer à la place des États-Unis. Il y a du boulot, bon, je pense que le dossier est peut-être profitable, il a aussi sans doute une sincérité dans sa démarche, il est parti.
Oui, Emmanuel Macron, il reprend un peu les mots de Nicolas Hulot en franchissant un cap, parce que Hulot évoquait il y a quelques jours le risque élevé d'un scénario totalement irréversible. On sait aussi qu'il y a 2 jours, il y a eu cet appel de 15 000 scientifiques qui dressaient un état des lieux absolument dramatique. Disponibilité de l'eau potable, déforestation, baisse du nombre de mammifères, émissions de gaz à effet de serre qui sont reparties à la hausse, les catastrophes naturelles qui succèdent, la hausse du niveau des océans. On voit bien que tous les voyants sont dans le rouge. Donc fondamentalement, il n'a pas forcément tort. Par ailleurs, on sait que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de maintenir la hausse des températures entre 1,5 et 2 degrés à horizon 2100. Et il y a des chercheurs qui ont publié dans une revue scientifique l'été dernier que, vous savez ce que c'est la probabilité que nous atteignions cet objectif? 5%. Il y a seulement plus que 5% de chances que nous atteignions cet objectif, puisqu'aujourd'hui on est sur une trajectoire de 3 à 4 degrés d'augmentation. Donc on peut dire qu'il a 95% de chances d'avoir raison, le pauvre Macron. Donc fondamentalement, il a raison de le dire et de tirer la sonnette d'alarme. Et effectivement, là où je rejoins Jean-Claude, c'est qu'au-delà des intentions et du discours qu'il tient, qui est un discours somme toute assez réaliste et qu'il a raison de tenir. Oui, il prend un leadership parce qu'il n'y a personne d'autre aujourd'hui et qu'il prend acte du retrait des Américains et du fait que voilà, il peut jouer un rôle alors que l'écologie n'était pas forcément...
Dans son ADN.
Non, dans son ADN au départ, on ne peut pas dire que c'était vraiment ça quand même.
Oui, l'alerte est justifiée et donc bienvenue. La prise de leadership, le terrain est libre... puis il faut bien que quelqu'un l'ait, puisque on est quand même plutôt avec des leaders qui démissionnent. Donc il est utile qu'un leader d'une nouvelle génération s'en occupe. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'effectivement il y a des, on est dans de l'irresponsabilité collective avec deux aspects. Le premier, c'est que nous-mêmes, enfin les pays riches. Ont la première responsabilité.
Bah oui.
Parce que c'est nous qui faisons
c'est
pas...
Nous qui avons créé ça, oui.
D'abord, on l'a créé et qu'on ne peut pas donc avoir un discours qui dise aux pays pauvres...
Faites le boulot.
On s'en lave les mains et dire aux pays pauvres vous allez rire maintenant, votre mode de développement à vous va être
non, vous
contenu.
Vous allez mourir.
Vous allez rattraper nos erreurs. Donc il faut permettre à la fois le développement et à la fois un développement raisonné et durable. La deuxième chose, c'est que sur le plan des mots utilisés, j'ai un petit doute. Parce que je pense que quand on dit à l'opinion publique c'est irréversible...
Ouais. On a des courages.
Oui, mais enfin, c'est dire c'est foutu.
On la décourage.
C'est foutu. Et donc, voilà, il y a un moment où il y a un risque parce que
je pensais qu'on débattait là-dessus justement.
Donc, quand on dit aux gens c'est foutu, c'est irréversible, c'est déjà trop tard. Je préfère l'appel des scientifiques qui disaient il est bientôt trop tard ou presque trop tard, et qui disaient donc on peut encore éviter.
Il n'y a pas à préférer, les deux ne se contredisent pas. Simplement, le monsieur tout le monde, madame tout le monde, non, se dit mais moi, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour aider, pour sauver la planète? On dit trier les déchets.
C'est trop tard.
Il n'a pas dit c'est trop tard. Macron, il n'a pas dit trop tard. Il a dit, si on continue, on accepte que bon nombre de peuples disparaissent.
Non, mais avant il a dit le seuil a été franchi d'irréversible.
Parce que la mécanique est enclenchée. Parce qu'on va...
D'accord avec vous, mais...
Écoutez, non, attendez, vous êtes dans un avion. Vous êtes dans un avion.
C'est irréversible. Bah, si le capitaine vous dit c'est irréversible,
ça va se cracher.
On va s'écraser. On se dit, prendre le dernier verre, la dernière clope, le dernier bisou, le dernier câlin, non?
Si on devait mourir demain, excellente chanson de Pascal Obispo.
Le même jour, Airbus a vendu, et on s'en félicite, j'imagine, 425 avions. Ça vole, ces petits engins-là, et ça consomme du pétrole.
Oui, mais monsieur Airbus nous a expliqué tout à l'heure que beaucoup moins, parce que justement, il les vend, parce qu'alors, ils sont hyper, c'est combien
10 ou 15% de moins
20%, je crois.
Ça crache quand même.
Il a quand même donné aujourd'hui, il a donné une liste de mesures qu'il allait prendre. Il est surtout préparé ce grand sommet à Paris, le 12 décembre, qui s'appelle le One Planet Summit, ce qui n'est pas rien, ce qui va être un événement. Trump n'est pas encore invité. Oui, bien sûr qu'il a leadership et qu'il mérite plus que jamais la une du Time. C'est un sujet éminemment populaire. Les gens trouvent que c'est un combat qui est très juste. Tout le monde en est conscient. Il a un boulevard devant lui. Alors c'est vrai. En plus, il peut se différencier. Mais si, il peut se différencier de l'Allemagne parce que Merkel traîne un peu des pieds pour ne pas imposer des contraintes à ses constructeurs automobiles, sur les centrales à charbon. Donc il est naturellement le chef sur cette histoire.
D'accord,
et il prend la place de Trump en disant que les Américains payent pas.
Eh
bien nous, les Européens.
Le
on va payer. Oui. Et donc, il a l'occasion, en plus, de défendre.
Un
je voudrais terminer,
sûr,
les garçons, les hommes, les garçons, je voudrais finir. Laissez la pauvre petite femme toute seule à bord.
On n'a pas un sou en caisse.
Oh,
mais
j'en ai marre de vous. Je m'en vais. Si vous continuez, je m'en vais.
Et le nucléaire, alors relançons le nucléaire. C'est la proposition. Il faut avoir le courage de faire.
Ce n'est pas rien d'avoir un président français.
Déjà, on
ne
le relance pas, mais en même temps, on n'en termine pas.
Évidemment, mais heureusement, sinon, on fait marcher l'usine comment? Alors.
Oh,
alors, soyons raisonnables.
Bon, allez au café, laissez-moi le micro. Non, mais ce n'est pas rien d'avoir un président français qui dit les Américains ne payent pas, nous on va payer. Nous, les Européens, on fait l'Europe sur ce sujet-là, sur le réchauffement climatique. C'est énorme.
Ça ne règle pas la question de vocabulaire que j'évoquais. Tout ce que vient d'être dit, je suis d'accord avec.
J'ai pas fini.
Je trouve que
Rémi
est réversible.
Non, mais
vous n'avez pas fini.
Dans l'émission, mais si, mais arrêtez. Cher ami, arrêtez.
Vous n'avez pas fini, mais regardez, il leur tourne quand même.
Mais arrêtez, on l'a emmerdé sur des questions de vocabulaire pendant 15 minutes sur sa dernière. Arrêtez avec le vocabulaire.
Vous parlez
depuis 17 minutes.
Eh ben, elle va reparler dans un instant, alors.
Vous voulez pas prendre
du coup. Le monde dans RTL Soir
avec Marc-Olivier Fauché.
Et on reprend notre débat donc sur le discours un peu catastrophiste donc d'Emmanuel Macron concernant le climat avec Jean-Luc Manot, Philippe Besson, Annie Lemoine, Jean-Claude Dacier, Annie Lemoine.
Mais moi, je suis pas d'accord avec ce terme. Il n'y a pas de discours catastrophiste. C'est du réalisme.
Non, mais là, vous êtes amoureuse. C'est pas possible.
Non, pas du tout. Et puis il est pris. Non, mais il prend la route de ses. Écoutez, c'est pas rien. Philippe l'a dit, 15 000. Oui. 15 000 experts du monde entier qui tirent la sonnette d'alarme. C'était la une du Monde il y a deux jours. Attention, ça va être trop tard. Bon, ben voilà.
Non, mais vous voyez la nuance entre attention, ça va être trop tard. Et il est déjà trop tard. Non. Parce que Jean-Luc disait que pour mobiliser l'opinion, c'est pas pareil de leur dire attention. Ça va être trop tard, que
attendez,
c'est déjà trop tard.
Revenons, il y a des mesures qui sont annoncées déjà, qui le seront aussi le 12 décembre à Paris. Ouais. Par exemple, c'est pas rien, on va mettre des taxes sur des produits qui viennent d'Inde et de Chine, parce que c'est mal produit, c'est
pollué. Taxes nouvelles dans ce pays.
Mais c'est pas rien, vous dites au monde, attention, vous produisez mal. Et à la Chine, qui est responsable de ce
départ
à la hausse de la pollution.
Non, mais c'est pas rien. De la situation, parce que ça peut aussi mobiliser la preuve, on en parle depuis 20 minutes, ça peut aussi faire prendre conscience aux hésitants, à ceux qui n'y croient qu'à moitié ou qui n'y croient pas trop, que franchement, il y a le feu au lac et qu'il est temps de réagir.
Il faut sauver la planète, bien sûr. Pas.
Donc, moi, je suis, encore une fois, je trouve que c'est un discours assez réaliste, avec des propositions, mais je n'ai pas dit le contraire. Un désaccord avec le terme d'irréversible, d'abord parce que ce n'est pas le terme des scientifiques, parce que il est bientôt trop tard, il est presque trop tard, c'est pas il est trop tard, ou alors la langue a plus d'importance. Et pour mobiliser les gens, il y a d'abord le fait c'est vrai ou pas, puis il y a la mobilisation. En même temps, c'est bien qu'il soit pas venu en disant on s'en occupe, etc. Qu'il ait eu un moment d'alerte.
Le problème aussi, c'est qu'il sera bientôt trop tard, on l'a entendu 25 fois.
C'est vrai.
C'est-à-dire une fois, on évoquait Chirac, que la maison brûle, c'était il y a 15 ans.
Donc d'accord.
Ça fait plein de fois qu'on a entendu, il sera bientôt trop tard.
Chacun sait que pour soigner un malade, c'est pas de rentrer dans sa chambre, disant t'es mort.
Oui, c'est ça, c'est mieux.
C'est mieux quand même de donner des
espoirs.
Donc,
il a fait une ordonnance
de l'espoir. Et donc ça, c'est plutôt bien. Je veux dire aussi un truc, soyons pas trop français sur ce sujet-là, sur un point, c'est de se poser la question à égalité, de savoir si sont des mesures justes, ou s'il prend le leadership en Europe. Parce que comparé au problème, à la réalité énorme du problème, honnêtement, qu'Emmanuel Macron prenne ou pas le leadership,
c'est juste qu'il faut quelqu'un à un moment donné, que Merkel mal placée pour l'incarner.
Ça peut le servir par ailleurs, etc. C'est un petit débat.
C'est un sujet dans lequel il faut un leader.
Ça fait pas partie d'un sujet de débat, mais vous disiez pendant la bulle une information que je ne savais pas, mais parce qu'après il faut, c'est bien de prendre des mesures, mais après il faut qu'elles soient réalisables. Vous racontiez que pour construire une éolienne, Jean-Luc, installer une éolienne, il faut 7 ans, c'est ça?
C'est bien de savoir que ce qu'on dit pendant la pub peut être utilisé, mais
pas
heureusement. Oui, c'est ce qu'on se disait avec Dacier disait la même chose. C'est lui qui a commencé. Disait on a des procédures qui sont insupportables. Par exemple, vous prenez, c'est vrai que sur une éolienne, on dit qu'il faut en gros en France 7 ans. Pour l'installer. Le problème, c'est que les technologies changent très vite et que donc, quand on l'implante après les recours, les procédures, etc., quand on implante une éolienne, elle a déjà dans la technologie passée. Et que dans les réformes qu'il faut faire, il faut aussi simplifier nos procédures.
Oui, enfin, il y a aussi une mesure dont on n'a pas parlé qui est essentielle. On va avoir un programme franco-allemand pour travailler sur le stockage de l'électricité fondamentale. Donc, on prend des mesures. Arrêtez d'être des ronchons en permanence en train de dire ça marche pas, c'est foutu, c'est trop tard. Non, il y a des mesures à prendre, il les prend.
Ça fait à peu près 30 ans que tout le monde dit que tout va bien, et vous avez vu où ça nous a mené. Donc c'est bien d'être ronchon un peu de temps en temps, je vous assure. Et c'est même un des principes de base de la démocratie.
Et puis de toute façon.
Oui, mais aujourd'hui, c'est trop long. On n'a pas de temps pour en débattre.
Et puis de toute façon, on va mourir demain. Avant de mourir, on va débattre de La République En Marche, ça tangue.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Marc-Olivier Fogiel.
Et avec Jean-Luc Manot, Philippe Besson, Annie Lemoine et Jean-Claude Dacier à 19h40 sur RTL à l'épreuve du pouvoir. Samedi, Christophe Castaner va donc prendre la tête de La République En Marche. Mais 6 mois après la victoire d'Emmanuel Macron, pas facile de transformer un mouvement populaire en parti présidentiel. Cent adhérents ont annoncé hier qu'il claquait la porte d'une organisation, je cite, digne de l'ancien régime. Et les critiques sur le manque de démocratie interne fusent de toutes parts. Alors, est-ce grave, docteur ? En Marche est-il le talon d'Achille du président? Puis Castaner, qui n'excuse pas de rester ministre une fois patron, ça vous choque ou pas? Sur les réseaux sociaux, Benoît.
Et voilà, les marcheurs rendent leur godillot, se moquent tuif, relayant comme beaucoup une citation d'un cadre d'En Marche. Dans le 92, sur le papier, il y en a 27 000 d'adhérents, mais en fait, seuls une trentaine sont actifs. Même si on multiplie ce taux par 10, calculera, ça fait moins de 40 000 sur tout le territoire. Conclusion, la France est gouvernée par un micro-parti, dit-elle. En Marche, c'est comme la politique à Macron, que du vent, ricane Didier. La politique et les chiffres, ça fait jamais bon ménage, moque aussi sa voix. Mais Dany assure que c'est comme dans toutes les associations, rien de nouveau sous le soleil. Oui, j'ai fait partie des Républicains, c'était pareil, tempère Jacques. Bah oui, on dirait que les gens découvrent la différence entre un adhérent et un militant, soupire Benoît. Mais vous pouvez même pas parler d'adhérent, rétorque Bibi, y a pas de cotisation, ce sont juste des abonnés à la newsletter. Enfumage. Oui, on nous fait croire qu'il y a une base, mais tout vient de la tête, c'est une technocratie, accuse DL. Quoi ? En Marche serait une coquille vide créée seulement pour faire élire Macron ? On nous aurait pris pour des quiches, ironise Tropi. Inutile d'être surpris, il a toujours été très clair qu'En Marche n'était pas un parti politique, mais un mouvement présidentiel. Que ses élus apprennent à lire les statuts avant d'adhérer, mais arrête de se plaindre après, tacle Maxime. Arrêtez, voilà des mois que les médias attendent et espèrent une fronde au sein de la majorité. Rien à l'horizon, alors on se rabat sur le départ anecdotique et scénarisé d'une poignée de militants fictifs, regrette Poppy. Mais voilà, les premiers marcheurs frondeurs comme Robin Reda lâche enfin. En Marche est un parti qui n'a pas de fondement idéologique et on a du mal à imaginer ce que va être sa vie démocratique.
Jean-Luc Panot, ce parti présidentiel qui commence à se structurer, il pose un problème au président ou pas du tout?
Non, on n'en est pas là. Et bon, les 100 types qui parlent, dont tout le monde parle, c'est une éruption, c'est un bouton. Alors après, quand il y a un bouton, faut le regarder quand même. Faut voir si c'est le début d'une grosse éruption ou pas. Ça mérite donc d'être regardé. Non, moi, je suis attentif à ce qui se passe à En Marche parce que je trouve que ce que ce parti essaye de faire, c'est-à-dire devenir un parti, est une mission extrêmement difficile pour la simple raison, c'est qu'il rassemble des gens qui ont refusé les partis. C'est-à-dire qu'ils refusent essentiellement des gens qui sont rassemblés là parce qu'ils n'en pouvaient plus des partis. Et donc, on voit qu'il ne s'agit pas seulement de dire nouveau monde, ancien monde. Créer un parti de type nouveau, un rassemblement, une formation, une structure de type nouveau, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et qu'il n'y a pas pour le moment, dans ce qui est proposé, ça va sans doute venir, peut-être venir, on peut l'espérer, il n'y a pas la structure nouvelle. C'est pas un parti du nouveau monde, ça reste quand même une structure, voilà. Sauf à considérer naturellement que interdire le vote à bulletin secret, ce soit la marque essentielle du nouveau monde, ce que je ne crois pas.
Oui, alors, Philippe moi je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Luc, c'est-à-dire que d'abord, il y a 100 gus qui s'en vont, on va quand même pas en faire un fromage sur une structure qui aujourd'hui compte effectivement 380 000 adhérents. Alors on est d'accord que ce sont des gens qui ont juste fait un clic pour s'inscrire.
C'est
on est d'accord.
Il n'y a pas de coût à l'adhésion.
Oui, mais les 100 qui s'en vont, c'est aussi 100 qui avaient fait un clic pour venir et qui l'ont fait un clic pour partir. Donc voilà, c'est 100 par rapport à 380 000. Donc soyons calmes. Et par ailleurs, sur les 380 000, il y en a 170 000 qui sont arrivés sur les 6 derniers mois. Donc on a connu des partis qui allaient plus mal. Voilà, c'est ce que je veux dire. Par ailleurs, j'entends dire il y a pas de programme politique à En Marche. Bah, j'ai envie de leur dire, bah, si, il y en a un, vous voyez, c'est un peu celui sur lequel a été élu le président de la République, qui par ailleurs est le fondateur d'En Marche. Alors, on peut être ou ne pas être d'accord avec ce projet politique, mais il se trouve qu'il existe et qu'il est même un peu en train d'être mis en place là. Donc voilà, mais effectivement, après, la difficulté que rencontre En Marche, Jean-Luc l'a bien dit, c'est que ça s'est créé par... comme un mouvement et pas comme un parti. Or, il faut que ça devienne un parti. Ça s'est créé avec des gens qui ne voulaient pas des partis traditionnels et qui, tout d'un coup, voient leur mouvement devenir un parti traditionnel. Donc ça, c'est un vrai souci. Ils découvrent qu'un parti, c'est quelque chose où il y a de la discipline, de la verticalité, un chef.
Ah, mais là c'est très vertical, c'est très chefé.
Justement, je vais y venir. Ils sont venus sur la promesse d'une espèce de démocratie pure et parfaite. Moyennant quoi, c'est donc Emmanuel Macron qui a décidé qui serait le patron d'En Marche. Donc on voit bien que la démocratie pure et parfaite, ça n'existe pas et que c'est juste un geste d'autorité. Ils sont venus aussi sur une espèce de chose qui était l'aventure galvanisante de la conquête du pouvoir. C'est vous partez de rien et peut-être vous allez gagner l'Élysée. C'est formidable. Mais après, vous l'avez, l'Élysée. Et donc, il faut juste commenter l'exercice du pouvoir. avouez que c'est beaucoup moins drôle. Donc, bon, il y a ça. Par ailleurs, n'oubliez pas non plus que les adhérents qui sont les adhérents d'En Marche sont des gens jeunes. Donc voilà, et sans expérience politique pour la plupart, alors que les militants des partis traditionnels, les militants socialistes, les militants des Républicains, on les connaît. C'est plutôt des gens plus âgés qui ont déjà derrière eux, ils ont roulé leur bosse, etc.
Pas au FN. Hein.
Pas au FN. Non, c'est pour ça que je disais Républicains et Parti socialiste. Donc voilà. Donc tout ça fait qu'évidemment c'est extrêmement compliqué et que par ailleurs sur les 380 et quelques mille adhérents d'En Marche, oui sans doute qu'il y en a moins de 100 000 et peut-être moins de 80 000 qui sont véritablement actifs. Donc c'est vrai que c'est pas grand chose, mais c'est vrai là aussi de tous les partis. Mais la vraie difficulté c'est comment on est venu sur une promesse de changement et comment on reste sur le fait qu'on sera comme tous les autres.
Jean-Claude Dacier est sur Castaner donc, qui va diriger ce parti décidé par Emmanuel Macron et qui veut rester au gouvernement et notamment donc dans sa relation avec le Parlement. Il va en même temps... C'est un peu compliqué.
Non, mais ça, c'est gênant. C'est-à-dire que c'est pas gênant qu'il soit ministre. Moi, je m'en foutrais qu'il soit ministre. S'il avait été ministre du budget, ministre de je sais pas quoi, je m'en fous. Mais ministre des relations avec le Parlement, c'est-à-dire quelqu'un qui deal avec les chefs de parti à l'Assemblée en étant soi-même patron d'un parti politique, là, il y a comme une sorte de contradiction dans les termes. Là, c'est choquant. S'il était un autre ministère, on s'en fout. Ça pose aucun problème.
Mettons-nous à sa place, là, oui. Hein, il passe d'un poste prestigieux et politiquement intéressant. Il va se retrouver effectivement à bâtir ce qui n'était pas dans la promesse ou dans les promesses électorales, mais la campagne électorale est terminée depuis longtemps, et maintenant le principe de réalité s'impose. Il faut mettre une politique en œuvre. Le nouveau monde, c'est effectivement pas de mettre toutes les décisions ou le nouveau logiciel à la démocratie populaire. Ça n'a pas grand sens. Il y a, comme tu disais tout à l'heure, une politique qui a été annoncée. Elle subira évidemment des modifications en fonction des événements, mais néanmoins, on sait à peu près ce que M. Macron est venu faire.
Oui. Et jusque-là, il le met en œuvre.
Jusque-là, il le met en œuvre, et ça se passe pas trop mal. Je suis d'accord avec toi pour dire que quelques milliers qui partent, ça me paraît pas être l'événement de la semaine. Alors là, la question de Marco, est-ce qu'il faut que Castaner abandonne toute fonction gouvernementale et s'attelle
en tout cas celle-ci,
au boulot
oui.
difficile d'expliquer aux gens d'En Marche qu'il va falloir maintenant... créer un vrai parti, parce que bon, on va sortir du rêve, c'est fini. Le président de la République, il connaîtra des jours difficiles. Il a besoin d'un parti à l'Assemblée, d'un groupe sans frondeur, si possible. Il a vu ce que ça donnait avec François Hollande. Et il a besoin d'essayer de bâtir, même s'il a expliqué que la politique avec lui, ça allait être autre chose et que ça allait se faire autrement.
Et donc la réponse
Mon
à la question
Eh bien, la réponse à votre question, je serai à la place de Castaner, j'essaierai quand même de rester au gouvernement.
Bah ça, c'est ce qu'il fait.
Sinon, qu'est-ce qui va s'enquiquiner ? Vous rendez compte, vendre des cartes, parce qu'il va falloir petit à petit que ça devienne payant.
Il n'y a plus de cartes, enfin, Jean-Claude.
Non, enfin, c'est
ils ont beaucoup d'argent.
Il va falloir qu'ils bâtissent la partie du président.
Oui, mais je rappelle
c'est un métier austère.
Le problème et la force d'En Marche, c'est qu'En Marche a beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont quand même de financement public 21 millions par an. Ils ont 100 millions sur les 5 prochaines années. Donc, ils n'ont pas de soucis financiers.
Pas de soucis financiers, mais honnêtement, je ne vois pas où est la contradiction et la difficulté.
Quand on pense aux socialistes.
Quand on est ministre des Relations avec le Parlement et patron du parti.
Tu deals avec les chefs de parti à l'Assemblée, tu deals avec le patron du groupe. Les Républicains,
ah bah si, quand même,
c'est quand même compliqué.
Allez, on y revient dans un instant. Si vous voulez dire.
On refait le monde dans RTL Soir.
Marc-Olivier Fauché.
Et on reprend nos débats avec Jean-Luc Panot, Philippe Besson, donc Jean-Claude Dacier, vous, Annie Lemoine, sur cette République en marche qui se transforme en partie avec Christophe Castaner, donc pour l'instant porte-parole du gouvernement, ministre des Relations avec le Parlement et qui samedi donc Fait du Prince sera président du parti.
Bah, on est pleinement dans l'exercice du pouvoir de Monsieur Macron. C'est un parti qui a, c'est pas un parti d'ailleurs, c'est un mouvement qui a servi à le mettre en place. Et aujourd'hui, on se demande un peu à quoi il sert. On imagine bien qu'il va servir aux élections qui vont arriver, etc. À le soutenir, mais il n'a pas franchement entre guillemets d'utilité pour l'instant ce mouvement. Alors il faut le structurer, oui, il faut que. Mais on voit bien comment gouverne Emmanuel Macron, l'équipe qu'il a constituée, une équipe d'experts. Tout est allé très vite. En 6 mois, il a déjà fait pas mal de choses. Il applique le programme. Eh bien les gens du mouvement sont un peu comme les députés En Marche. Ils ont un passage à vide, des états d'âme, parce qu'ils découvrent la réalité, qu'est-ce qui se passe, comment, à quoi on sert. Et c'est, il faudrait presque nommer
C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un leur dise à quoi ils servent.
Mais non, mais c'est très difficile. Ils n'ont pas de repères. Ils ne vont pas se structurer comme le Parti Socialiste.
Mais
parce qu'ils sont dans un autre monde, déjà.
Ah bon
mais bien
mais
sûr,
quoi,
le PS a une histoire, vous le savez. Vous avez suffisamment assisté
chance,
à la vie politique française pour voir comment ça fonctionnait. avec un parti qui avait mis un président au pouvoir, avec tout le président qui recevait le chef du parti, oui. Et que ça grenouillait, et il y avait des courants dans le parti, tout le monde se bouffait le nez, on se demandait si Martine Aubry... Enfin, vous avez vu ça? On n'est plus du tout dans ce monde-là.
Ils ont une chance inouïe, donc, ils démarrent sur une table rase.
Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de chance.
Un seul mot d'ordre.
Mais c'est absolument nouveau, c'est une nouvelle façon de fonctionner.
Pour ce pays, ce que les autres n'ont pas fait depuis 25 ans.
Mais
c'est
oui,
ça le mot d'ordre.
Oui,
il n'y a que ça qui compte. En marche, un parti, ça sert à quoi, en gros? Ça sert à quoi? Ça sert à définir des leaderships pour gagner les élections.
Oui.
Ils en ont un. Enfin, oui. A priori, vu son âge, en plus, ils vont l'avoir pendant un certain temps. C'est pas une question immédiate. Et deuxième chose, ça sert à produire du sens, malgré tout. On oublie un peu, à créer des idées. Et la faillite des partis, c'est qu'ils ne créent plus de sens depuis bien longtemps, que les idées, en fait, ont jailli.
Sauf qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a besoin d'un parti
pour avoir des idées? Il faut le management de façon entreprise, avec des experts.
Naturellement.
D'abord, le terrain, les gens votent quand même.
Avec certaines naïvetés. Je pense que ce qu'il a dit quand il a dit qu'il a été nourri par ce mouvement En Marche pour la conception de ses idées,
c'est
en partie
vrai.
Pour avoir assisté à la fabrication du programme, oui, c'est vrai.
La réponse, est-ce que ça sert?
Ça, c'est vrai.
Et deuxièmement, quand on gouverne seul, on finit par gouverner mal et on finit par gouverner contre.
Absolument.
Et donc, il a besoin d'une structure
avec des choses.
Mais est-ce qu'il est en état aujourd'hui, hyper président comme il est, d'être à l'écoute de ce qui, à l'époque, il voulait devenir président?
Aujourd'hui, il l'est. Castaner a été nommé pour ça.
Je voudrais juste terminer sur le parti.
Oui, non, mais c'est important.
Sur le parti Castaner. D'abord, Castaner, il ne faut pas lui faire un mauvais procès. S'il n'avait pas été désigné par le président comme il l'a été, il aurait gagné quand même dans le parti.
Oui, il est le seul. Il
n'y sera pas allé.
C'est
pas la même chose.
Il est légitime, je veux dire. Il n'y a pas de problème de légitimité. Ouais. Après, il faut qu'En Marche fasse attention à la manière dont il se structure, car il est vrai que dans la pétaudière qu'est ce parti, dans beaucoup d'endroits, il y a des crispations qui se font au niveau local. Moi, je connais des départements où la manière dont les petits chefs d'En Marche se comportent est insupportable.
C'est un endroit où on produit des idées, on produit de la pensée. Moi, je suis allé dans des comités En Marche.
Attends, c'est
des gens qui font des débats sur la fin de vie, sur les discriminations, qui produisent de la pensée. Donc ça, c'est pas mal.
Non, mais qui la produise. Mais la question, c'est est-ce qu'il est en
état d'écoute? Juste un mot. Analyser ce soir la réponse, comment, à des gens qui demandent un débat, on leur dit, OK, il y aura un débat au QG, ce sera jeudi soir, avec Facebook Live, avec deux représentants par liste, etc., et à une durée limitée. C'est du management d'entreprise.
Oui. Mais s'il veut être élu, il va falloir qu'il fasse autre chose.
Oui, mais c'est mieux quand même que les partis où on leur disait
ça ne
sera
mal.
Pas jeudi soir.
C'est pas mal.
Mais on est loin
de la mutualité. Mais c'est donc
et
un
ça,
autre
ça
monde. Mais c'est donc une autre façon de fonctionner. C'est intéressant.
Oui. Allez, merci à tous les quatre d'avoir refait le monde sur RTL ce soir. Dans un instant, le flash de 20h. Et ensuite, Jacques Pradel. À tout de suite. RTL.